Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la rentrée. Nous espérons que vous avez passé un bel été, que vous êtes en pleine forme. Nous, nous sommes ravis d'être de retour avec vous. L'été a tout de même été actif pour préparer une belle saison 6 de Libre à vous, l'émission sur les libertés informatiques. Logiciels et ressources libres dans l'éducation nationale, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Isabelle Avani sur la fête des possibles, et aussi le premier chapitre d'une nouvelle chronique proposée par Vincent Calam sur le libre et la sobriété énergétique. C'est une première nouveauté en termes de chronique. D'autres vont arriver et seront annoncées dans l'émission de la semaine prochaine, mardi 13 septembre. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition, la 150e de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire tout retour ou nous poser toute question. L'émission du jour est dédiée à Peter Eckersley, décédé à 43 ans il y a quelques jours. Cet informaticien, spécialiste en cybersécurité et en protection de la vie privée, a notamment travaillé pour l'Electronic Frontier Foundation, l'EFF, une ONG internationale de protection des libertés sur Internet, dans laquelle il a initié et développé de nombreux outils de protection de la vie privée, et une bonne partie du chiffrement sur le web actuel, on le lui doit. Donc on lui dédie cette émission, Peter Eckersley. Nous sommes mardi 6 septembre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Derrière la vitre, aux manettes de la régie, l'as des as de la réalisation radio, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred, et très content de retrouver la régie après cette pause estivale.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique de ma collègue, oh la grosse fatigue, Isabelle Avani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. La chronique est intitulée « Le libre fait sa com » et a notamment pour objectif d'informer sur les actions de type sensibilisation menées par l'April, mais c'est aussi l'occasion d'annoncer et de parler d'événements libristes à venir. Et justement, le sujet du jour, c'est la fête des possibles. Je te passe la parole, Lisa.
Merci Fred, bonjour à tout le monde. La fête des possibles est devenue un événement incontournable de l'agenda de septembre dans toute la France et en Belgique. Des centaines de rendez-vous sont proposés pour rendre visibles les initiatives citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire. Cette année, la fête des possibles débutera officiellement le 9 septembre, donc vendredi prochain, voilà pourquoi on en parle aujourd'hui, et se terminera le 25 septembre. Nous allons vous présenter cette initiative qui est portée par le collectif pour une transition citoyenne avec notre invité, Teben Gerlofs, de l'équipe de coordination nationale de la fête des possibles. Bonjour Teben.
Bonjour Isabella et merci de me recevoir.
Donc pour commencer, en quoi consiste la fête des possibles et à qui est-elle adressée?
Alors la fête des possibles, c'est un événement, comme tu l'as dit, qui a lieu en septembre du 9 au 25. Et c'est un événement qui appelle toutes les initiatives citoyennes qui construisent déjà un monde plus juste et plus durable sur le territoire à organiser des événements pour montrer ce qu'elles font et pour diffuser toutes ces bonnes initiatives et ces bonnes énergies.
Et très bien, et c'est quel public en fait qui est visé par la fête?
Alors, le public, tout le monde est la bienvenue sur les fêtes des possibles. Justement, si vous y connaissez déjà en transition, vous pouvez venir sur une fête des possibles pour en apprendre plus. Mais aussi, si le mot transition ne vous dit pas grand-chose, eh bien les fêtes des possibles, c'est le moment de venir vous initier à ce que veut dire ce terme et à découvrir quelques premières pistes pour vous engager vous aussi dans des transitions, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, parce que les fêtes des possibles sont pour nombre d'entre elles organisées par des associations qui sont toujours contentes de recruter parmi vous.
Très bien, j'allais justement dire que tu fais partie de l'équipe de coordination de la fête des possibles. Donc l'équipe de coordination communique sur la fête, mobilise les différents réseaux partenaires, propose des formations, etc. Mais ce sont des associations notamment qui organisent des événements en France et aussi en Belgique. Cette année, vous avez souhaité mettre en avant plus particulièrement le thème des territoires. Pourrais-tu nous en dire plus?
Oui, alors les territoires, On a choisi ce thème cette année parce que les transitions pour un monde plus juste et plus durable, donc les transitions écologiques, solidaires et démocratiques, elles se construisent notamment au niveau du territoire. Donc un territoire, ça peut être une ville, mais ça peut être en campagne aussi une partie d'un département. Et à cette échelle du territoire, les associations et les entreprises coopératives travaillent souvent ensemble pour mettre en œuvre ces transitions, mais aussi parfois ne se connaissent pas et travaillent chacune pour une transition, pour que ce soit par exemple dans le domaine de la mobilité ou de la réduction des déchets ou dans le domaine agricole. Et la fête des possibles, c'est alors le moment de se faire rencontrer ces initiatives et de faire découvrir ces initiatives ensemble.
Je crois d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de villages de possibles justement pour présenter au cours d'une journée ou plusieurs journées plusieurs activités, plusieurs initiatives du même territoire. Tu me confirmes qu'il y a cette dynamique ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs centaines d'événements qui sont organisés partout en France lors de la Fête des Possibles. Et parmi ces centaines d'événements, il y en a qu'on appelle les villages des possibles. Alors qu'est-ce que c'est un village des possibles ? Un village des possibles, c'est un village associatif qui rassemble tous les acteurs de la transition justement au niveau du territoire et qui permet de découvrir toutes ces associations ensemble et à ces associations de travailler ensemble, de faire des choses ensemble. Par exemple, si vous habitez à Paris, il y a à Paris, autour de Paris, plusieurs fêtes des possibles où vous pourrez découvrir de nombreuses associations. À Créteil, par exemple, il y a un village des possibles où il y a des ateliers climat, des animations réemploi et recyclage, mais aussi où il y a une porte ouverte de la maison de la nature. Et ailleurs, par exemple, à Montigny-le-Bretonneux, il y a aussi un village des possibles avec près de 20 associations où vous pouvez découvrir ce qu'est une AMAP, visiter le potager urbain, le verger, apprendre à faire son compost, mais aussi découvrir le concept de la sécurité alimentaire ou participer à un Ripper Café, par exemple.
Merci pour ces exemples concrets qui concernent l'Île-de-France, vu que notre émission est mise sur la Radio Cause Commune, qui émet en FM en Île-de-France. Une question, comment savoir s'il y a un rendez-vous près de chez moi, justement ?
Alors, il y a forcément un rendez-vous près de chez vous. C'est un peu une blague, mais c'est un peu vrai aussi. Vous pouvez aller sur notre site internet, si vous tapez « Fête des possibles » dans un moteur de recherche libre, ou si vous allez sur « fête-des-possibles.org », vous tomberez sur notre site web sur lequel il y a une carte. Et sur cette carte sont référencés les centaines de rendez-vous qui sont organisés partout en France. Et alors vous pouvez zoomer sur cette carte ou sélectionner votre département et découvrir ce qui se passe près de chez vous.
J'ai adoré quand tu as dit moteur de recherche libre. Parmi les différentes initiatives qu'on peut découvrir lors de la fête, il y en a justement une qui me tient particulièrement à cœur, car c'est l'informatique libre. Donc j'en profite pour dire qu'il y a déjà une dizaine d'événements autour du logiciel libre, de la culture libre, qui sont inscrits dans le cadre de la fête. Donc il y a plusieurs ateliers d'initiation au logiciel libre, qui comprennent aussi l'aide à l'installation d'un système d'exploitation libre sur son ordinateur. Par exemple, le 15 septembre à Lyon, le 9 septembre à Figeac dans le Lot, le 24 septembre à Marseille, le 25 septembre à La Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. Il y a aussi des portes ouvertes, c'est-à-dire des rencontres autour d'un verre ou d'un repas. C'est l'occasion de rencontrer des associations de promotion du logiciel libre qui proposent aussi des services en ligne libres, solidaires, éthiques. C'est le cas d'Infini qui organise le 9 septembre des portes ouvertes à Brest. Et c'est le cas aussi de l'April qui organise le 23 septembre un apéro avec présentation des services en ligne libres chez April, donc à Paris. Paris. Il y a aussi le stand de Oisux, le groupe d'utilisateurs et utilisatrices des logiciels libres de l'Oise, qui tient un stand à Saint-Leu, Desserrans dans l'Oise le 25 septembre. Et il y a la projection de LOL, un documentaire sur le logiciel libre, suivi d'un débat et d'une fête d'installation, à nouveau à Quimper, donc dans le Finistère, le 10 septembre de... Oui.
Et je précise aussi que la radio Cause Commune organise une journée portes ouvertes vendredi 16 septembre 2022. Donc on mettra les liens sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Ce sera l'occasion de découvrir le studio, les équipes d'animation et peut-être même de jouer avec les micros, la console et voir de participer à une émission. On vient de le rajouter, l'événement vient d'être validé en direct là, il y a quelques instants.
Magnifique.
Donc merci à la Fête des Possibles.
Du coup, un nouveau événement ajouté en direct sur le site, très bien. Thébette, souhaites-tu ajouter quelque chose?
Oui, on pourrait parler très longtemps de la Fête des Possibles, mais en effet, vos exemples d'événements autour des logiciels libres est un très bel exemple de ce qui se passe partout en France, c'est-à-dire qu'on prend un sujet et on en parle partout en France, et on a comme ça tout un réseau d'associations partenaires comme l'April, qui organise des événements lors de la Fête des Possibles. Parmi ce réseau, il y a par exemple Habitat Participatif France ou le réseau des magasins Artisans du Monde ou encore le réseau des AMAP. Et ça veut dire que partout en France, ces associations qui, au niveau national, mobilisent leurs réseaux locaux, promeuvent ce qu'elles font lors des 2 semaines de la Fête des Possibles.
Voilà, donc c'est les partenaires, le réseau de partenaires sert aussi effectivement à relayer, donc à mobiliser toutes les associations en lien avec les thématiques portées. Donc notre temps est fini. Je remercie beaucoup Tenen Gerloffs pour sa présence. Rappelons les dates de la Fête des Possibles du 9 au 25 septembre. Retrouvez tous les rendez-vous sur fêtesdespossibles-entrechaquemont.org. Et donc, bonne fête.
Oui, merci à vous et bonne fête aussi.
Merci.
Écoutez, merci Isabella, merci Thében. Et sur le salon web de la radio, je crois que j'ai oublié de le préciser, donc si vous voulez échanger avec nous, vous venez sur le salon web de la radio, hein, site web causecommune.fm, bouton chat, salon libre à vous. Je vais mettre le lien pour la journée portes ouvertes à la radio Cause Commune, mais évidemment, on mettra les informations à la fois sur libreavoue.org et sur causecommune.fm. Donc c'était la chronique de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, chronique intitulée « Le libre fait sa com ». Nous allons faire une pause musicale. Alors, je remercie notre invité principal, Alexis Kaufmann, qui interviendra tout à l'heure, parce que les 3 pauses musicales, c'est lui qui les choisit, donc peut-être tout à l'heure, il aura l'occasion d'expliquer. Open Goldberg Variation, c'est un projet à but non lucratif, consistant à créer un enregistrement de qualité et une partition typographiée des variations Goldberg de Johann Sebastian Bach, pour les placer directement dans le domaine public. Les pièces ont été enregistrées par la pianiste Kimiko Douglas Ishizaka. Et donc nous allons écouter la variation Variato 1 à clave et on se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. Thank you.
l'occasion d'écouter Variato 1 à clave du projet Open Goldberg Variation, joué par Kimiko Douglas Ishizaka, disponible sous licence libre CC0, transfert dans le domaine public. Alors c'est une licence Creative Commons un peu particulière, car elle permet de renoncer au maximum à ses droits d'auteur dans les limites des lois applicables, afin de placer son œuvre au plus près des caractéristiques du domaine public. Comme je disais, c'était un choix de notre invité qui va suivre juste après, peut-être qu'il nous en parlera rapidement. Et en attendant...
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le libre éducatif. Notre invité, Alexis Kaufmann, que je vais laisser se présenter après. On va juste vérifier son micro. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir. Avant que j'oublie, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à notre conversation. Pour cela, vous pouvez appeler en direct la radio au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Ou venir sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et vous pourrez réagir. Et si vous avez des questions ou des remarques, j'essaierai de les relayer auprès d'Alexis. Alors, Alexis, première question très simple. Je préfère que tu laisses te présenter, voir un petit peu comment tu vas présenter ton parcours. Donc, qui es-tu, Alexis Kaufmann?
Donc, bonjour. Donc, tu as intitulé l'émission, enfin, le passage me concernant échange avec Alexis Kaufmann sur le libre éducatif. Donc, déjà, je précise que je ne représente pas le ministère. Je ne suis pas mandaté par le ministère pour prêcher la bonne parole, entre guillemets. C'est un témoignage, même si, évidemment, quand on est dans l'administration centrale, on représente. Voilà, notre parole est publique. Si j'ai bien compris que l'émission, il me semble qu'elle soit en direct. Puis ensuite, elle sera certainement, elle fait l'objet de podcast, donc elle sera quelque part sur les internets. Mais voilà, donc c'est un témoignage personnel. Alors maintenant, qui suis-je ? Je suis professeur de mathématiques, voilà, depuis 25 ans, dans le secondaire, en France et à l'étranger. J'ai également enseigné les deux nouveaux enseignements qui viennent de la réforme du lycée, mais juste une année, la SNT et la NSI, ce sont des acronymes, donc sciences numériques et technologies en seconde, et l'enseignement de spécialité NSI, numérique et sciences informatiques, on appelle parfois l'option informatique, en première et en terminale. Je les cite parce que en SNT, dans les programmes, on a par exemple contribué à OpenStreetMap. Bien, c'est assez nouveau. Et puis dans le programme de la NSI, on travaillera sur un système d'exploitation libre. Voilà des choses qu'on ne voyait pas, écrites telles quelles dans les programmes par le passé. Donc enseignant et également à l'initiative de Framasoft, plus de 20 ans, on a fêté les 20 ans du premier nom de domaine Framasoft.net il y a un an. À l'initiative de Framasoft, quand j'étais professeur de collège à Bobigny, voilà, je me suis intéressé, jeune prof, je voyais l'informatique arriver, ça m'a intéressé, j'ai dit tiens, il y a des logiciels qui peuvent être intéressants, tiens, il y a les gratuits, ah bah tiens, il y a des gratuits mais aussi libres, pourquoi on fait cette distinction, etc., etc. Je me suis mis à les référencer, ça a intéressé d'autres, ça a fait un petit effet boule de neige. On a créé une association qui s'est appelée Framasoft quelques années plus tard. Et Framasoft, comment dire, je pense que certains de vos auditrices et vos auditeurs connaissent. C'est une belle aventure, c'est ça, là, ça a démarré sur... un annuaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement d'utilisateurs, non pas un mouvement d'informaticiens, ce n'est pas un mouvement de développeurs, et qui est issu du monde éducatif. Framasoft a beaucoup évolué. Moi, j'en étais président pendant plus de 10 ans, et j'en fais plus partie d'ailleurs, mais on est passé du logiciel libre à la culture libre. Aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement émancipateur derrière le numérique, c'est un choix de société, etc., etc. Enfin, Framasoft, en tout cas, est connu dans le monde francophone sur ces questions-là. Et puis, donc, c'est depuis un an, je viens de souffler ma première bougie, c'est pour ça que tu m'as invité peut-être aussi. Je suis ravi, c'est la 150e, ça Oli. Donc depuis un an, je suis au ministère de l'Éducation nationale dans une structure qui s'appelle la Direction du numérique pour l'éducation, la DNE, en tant que chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique. À la transformation numérique de la direction numérique pour l'éducation. Je sais, ça fait beaucoup, c'est très très long. Alors, ce qui est intéressant, c'est que enfin, ce qui est intéressant, j'en sais rien, c'est les auditeurs qui diront, mais c'est que j'arrive après une consultation d'un, qui sont, alors ça s'appelle les états généraux du numérique.
Ah, je préfère, Alexis, on va y revenir après.
D'accord. Je savais pas si c'était une présentation courte ou longue.
Courte.
D'accord.
Mais je te connais. Et je vais juste rappeler que donc Framasoft, c'est framasoft.org et on a consacré au moins une émission à Framasoft sur libreavoue.org, donc vous retrouverez le podcast. Mais justement, comment tu es arrivé à ce poste m'intéresse, mais c'est dans une deuxième partie ça. D'abord, j'aimerais, parce qu'on a intitulé ça un petit peu, on a parlé de logiciels libres et ressources libres dans l'éducation, et puis en résumé court, tu m'avais proposé le libre éducatif. Alors peut-être que le premier sujet, le premier grand thème, ça serait, c'est quoi le libre éducatif? Et finalement, en quoi est-ce important de recourir à, et voire aussi de produire des logiciels libres et des ressources libres dans le domaine de l'éducation? Avant de parler vraiment de ce que tu fais, l'importance du libre éducatif.
D'accord. Comment je peux aborder ça? Je vais prendre un tout petit peu de hauteur et on va parler d'abord du numérique éducatif. À la fin du mois d'août, j'étais à une sorte d'université d'été du numérique éducatif, ça s'appelle Ludovia, et dont la thématique était éthique et sobriété numérique. Et mon directeur, Audran Lebaron, est intervenu et il a proposé 4 leviers d'action en faveur de la sobriété numérique. Il y avait rationaliser les équipements. Ça, je pense que ça parlera aux auditeurs, ça parlera aussi à ceux qui s'intéressent aux logiciels libres. Rationaliser donc les équipements, l'éco-conception dans les services numériques. Oui. Il y avait aussi mutualiser l'infra. Et puis il y avait l'infrastructure. Et puis utiliser le numérique éducatif lorsque c'est réellement nécessaire et utile. Et ça c'est nouveau comme discours. C'est vrai, c'est une posture. Comment dire, modeste et raisonné et raisonnable.
C'est-à-dire que c'est pas la posture.
On est loin, si tu veux, on est loin du numérique triomphant d'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était par essence, c'était moderne, c'était innovant en soi.
On distribuait des iPads à les collégiens, par exemple, et c'était l'avenir, ça allait marcher par magie, sans formation, tout ça, etc.
Voilà.
Là, il y a un changement.
Donc ça va pas de soi. Et donc nous, au ministère, on se pose la question. Tous ensemble, pourquoi le numérique éducatif? Ça me paraît, c'est bien de démarrer comme ça, mais c'est vrai que on est à une période où on se pose cette question-là, notamment parce qu'on parle de transition numérique, mais on parle aussi de transition écologique. Donc une réponse, parmi les réponses, si tu veux, évidemment, on est dans un monde numérique et donc on doit éduquer à la citoyenneté numérique nos élèves, nos enfants. Ça c'est une évidence. Pas forcément. Évidemment, il y a l'angle attention à vos données personnelles, attention les réseaux sociaux, faut pas en abuser, attention.
Ça, c'est la partie
danger, harcèlement.
Mais il y a la partie aussi opportunité.
Exactement. On aura l'occasion d'en parler, mais il y a quand même éducation à la citoyenneté numérique. Il y a aussi un numérique qui peut rendre efficace et résilient. On l'a vu en situation de crise, mais aujourd'hui on peut aussi la poursuivre avec, par exemple, parce que des élèves sont, on appelle, empêchés, donc ils restent à la maison ou ils restent dans une structure hospitalière, etc. Donc là, il y a aussi tout ce que ça peut apporter à la pédagogie. Moi, j'ai 25 ans de carrière derrière moi, j'ai expérimenté toutes sortes d'outils numériques et de dispositifs. On a été élèves avant l'Internet. Le cours de maths, quand on rentrait chez nous, on avait juste notre cahier pour essayer de comprendre. Si on n'avait pas trop bien compris sur le coup, c'était difficile. Et puis, on pouvait même pas appeler le copain parce que c'était le téléphone avec fil, on dérangeait toute la famille, etc. Donc, on était un petit peu tout seul. De la même manière qu'un... Alors qu'évidemment, aujourd'hui, on peut réécouter son prof si jamais il nous fournit des ressources, mais on peut écouter plein d'autres profs dans plein de langues qui vont nous redire la notion. On peut demander aux copains extrêmement rapidement on peut prendre des photos, des machins. On a un accès à la connaissance qui est absolument incroyable. Mais ça, c'est vrai, évidemment, parce que nous, on a connu l'avant. Pareil, quand t'es enseignant et que tu prépares ton cours, tu le prépares plus tout seul. Avant, on préparait tout seul. Là, vraiment, on se met en relation sur des groupes, des machins. On communique, on collabore, on partage, c'est extraordinaire. Donc ça... Et puis, en classe, avec les élèves, le numérique apporte... On a des classes qui sont hétérogènes, on peut effectivement différencier, faire des parcours personnalisés, identifier les lacunes pour certains, pousser plus haut, entre guillemets, les bons élèves. Le temps du confinement... le feed, ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire être dans une relation.
La rétroaction.
La rétroaction en français, tu as raison de me, tu as raison de me corriger. Voilà, avec l'élève, on peut vraiment être dans un dialogue et ce qu'on peut pas quand on a une heure de cours, 30 élèves, on n'a pas le temps vraiment de consacrer aux uns. Enfin, on a le temps, mais c'est plus difficile. Le numérique aussi, dans l'inclusion, les lecteurs pour les 10, etc. Il y a des choses aussi à ce niveau-là.
Les quoi, les 10
Oui, tu sais, les 10 calculi,
ah oui, d'accord,
tu vois, tout ce qui. C'est-à-dire, il y a des élèves qui avant c'était plus difficile pour eux de suivre le cours parce que il y avait un professeur qui fait. Là, okay. On a différents canaux, différents supports qui peuvent aider. Donc, je veux dire, le numérique est inclusif, à mon avis, apporte quelque chose à l'inclusion et à l'accessibilité.
Alors, qu'est-ce qu'apporte en plus?
Dernière chose, la collaboration qui, pour moi, est. C'est vraiment le fait de travailler ensemble. Entre pairs la coopération, être créatif ensemble, c'est ça le numérique est extraordinaire pour ça. C'est pas l'unique, c'est pas l'alpha et l'oméga mais voilà, ça apporte un certain nombre de choses, ça a quelques réponses si tu veux. Donc si ceci posé, en admettant donc que le numérique éducatif, parce que mine de rien, donc je dis, il y a le numérique triomphant, c'est plus le cas, mais on a un effet contraire. Je veux dire, on a aussi des mouvements. On a aussi des mouvements. Aujourd'hui, c'est de décroissance radicale. Hein, c'est-à-dire, vous avez jeté l'argent par les fenêtres avec tous vos plans, etc. On n'en veut plus de numérique. Donc, voilà. Je donne quelques éléments qui me semblent apporter quelque chose à l'enseignement. À l'intérieur du numérique éducatif, moi, je suis convaincu que le libre éducatif apporte quelque chose. Alors, maintenant, pourquoi libre éducatif? J'aime bien l'expression. D'abord parce que je t'ai cité mon titre, il est un peu long. Logiciel et ressources éducatives libres. Donc c'est une manière de les condenser. Et éducatif, c'est un adjectif en fait qui a pour but l'éducation. Donc le libre qui a pour but l'éducation. Alors non seulement je te parle logiciel libre, ressources éducatives libres, mais j'en rajouterai donc REL pour ressources éducatives. J'en rajouterai même PEL. Pratique éducative libre. Si tu veux, je peux développer aussi. Mais je mets tout ça ensemble, que je regroupe dans le libre éducatif. Alors après, tu vas me dire quelle est la définition. J'imagine que c'est la 150e, j'imagine que vous avez souvent défini ou redéfini le logiciel libre.
Ce qui est bien, c'est que tu fais les questions et les réponses. Je te laisse effectivement.
Disons que.
Non, mais c'est des. Que ce soit les deux logiciels, ressources ou des pratiques, elles doivent être librement réutilisables,
voilà, en fait,
sans restriction, y compris commerciale. Donc c'est les licences logiciels libres et un certain nombre de licences Creative Commons,
etc. Je
ne parlerai
même pas de licence si tu es dans un premier temps. C'est vraiment c'est les libertés, la liberté d'accès, d'usage, d'études, de modification, adaptation, amélioration et partage. Et pourquoi je les cite comme ça? Parce que si jamais on les pense, si on pense, voilà, accès, usage, études, modification, partage, si on le pense dans l'éducation, et si on pense que la ressource, c'est le savoir, les connaissances, c'est presque naturel, si tu veux.
Pour des profs, dont l'une des forces, c'est en fait leur pratique et de partager, en fait.
Voilà.
Oui, et les améliorer. Donc c'est une des forces.
Voilà, pour moi, on est dans l'ordre de quelque chose d'assez naturel. Alors, on peut discuter de pourquoi ça ne l'est pas forcément, et pourquoi, entre guillemets, aujourd'hui, le système, alors entre plein de guillemets, fait apparaître ça presque ça comme une bizarrerie, voire comme une alternative. Mais il n'empêche que, par exemple, moi je travaille aussi à accompagner les communautés d'enseignants. Les communautés d'enseignants qui veulent partager, c'est beaucoup plus facile de le faire sur des systèmes ouverts que fermés. Hein. C'est, voilà, là encore, c'est quelque chose qui me semble assez, assez naturel. Donc voilà. Donc, Audran Le Baron, je me souviens
qui est le directeur du numérique éducatif.
Voilà. Il avait dit que le logiciel libre est à 200% compatible avec les grandes valeurs qui portent l'éducation. Et voilà, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec lui. Juste un dernier mot. Je sais que je suis très bavard. Je pense que donc, l'éducation a besoin de logiciels libres. Je pense aussi que le logiciel libre a besoin d'éducation. C'est-à-dire que là, tu as commencé à parler de licence, tu vois, y a beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi l'un des objectifs de cette émission et de l'April, de faire connaître ces notions, de faire comprendre C'est pas simple. Voilà, déjà comprendre ce que c'est qu'un logiciel libre par rapport à nous. J'ai passé toute ma vie à ça et j'ai pas forcément toujours bien réussi. Hein. Pareil pour les communs numériques, etc. Il y a de la sensibilisation, de la confrontation aussi, hein, parce que on n'est pas forcément d'accord, mais c'est important. Faut faire comprendre ces notions parce qu'elles sont, à mon avis, une fois qu'on les a comprises, elles sont susceptibles aussi elles sont engageantes.
D'accord. Ok.
Non
mais attends. C'est l'important, c'est un échange, etc. Mais il faut quand même laisser du tout à ton retour d'expérience parce que ce qui paraissait important. Et je rappelle qu'on a quand même, c'est aussi toi qui a proposé effectivement ce point sur l'éducatif, de rappeler ce point introductif qui m'a paru très complet et très clair. On va aborder un petit peu le cœur de l'échange. Il y a un an, tu prends ce poste. Alors je vais le répéter quand même. Hein. Chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Et avant, comme tu l'as dit, tu as été notamment créateur de Framasoft. Alors, je vais faire une toute petite introduction qui ne va pas forcément appeler un commentaire direct de ta part, mais une question qui est en lien. Donc, tu as rejoint le ministère de l'Éducation nationale il y a un an. Le ministère de l'Éducation nationale est plutôt largement connu pour son asservissement aux solutions privatrices de Microsoft, Google, Amazon, etc. Alors, je parle bien sûr de l'institution, hein, pas du personnel de l'institution. Alors, sans vouloir refaire toute l'historique qui serait assez longue, par exemple, dernière étape de cet asservissement, l'offre de gratuité avec les guillemets, je mets des guillemets, pour Office 365, pour les élèves et le personnel enseignant. Suite à ça, le député MoDem Philippe Latombe, dans une question écrite au ministre de l'Éducation nationale, parle d'une administration qui donne l'impression d'être vendue à Microsoft. Alors, on va laisser le ministre répondre, je ne vais pas te poser la question là-dessus. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que donc, tu as été fondateur de Framasoft, tu en as même été salarié. Framasoft a été très critique envers le ministère, comme l'April, comme plein de gens. Et donc, j'ai envie de te demander ce qui t'a motivé à prendre ce poste ou à candidater à ce poste. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'est passé, si tu as répondu à un appel, une offre d'emploi, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cette structure, vraiment à ce poste-là ?
Il y a quelqu'un qui m'a pointé un article que j'avais écrit sur le blog de Framasoft, sur le Framablog, un article de 2008, qui a pour titre Mon ministère me désespère ou le fabuleux don destin du logiciel libre à l'école française, en 2008. Donc, que j'avais écrit en tant que président de Framasoft. Donc, ce dont tu parles, j'en ai conscience, je l'ai vécu. Maintenant, voilà. Il y a eu une consultation, il y a eu beaucoup de consultations internes au ministère selon différentes mandatures. Hein. Il y a eu, au sortir du premier confinement, parce qu'il y avait eu quelques... Tout ne s'était pas formidablement bien passé. Et on a demandé, voilà, on a interrogé. Et il y a eu, parmi ceux qui sont intervenus, il y avait des témoignages, des enseignants qui souhaitaient davantage favoriser le logiciel libre et les ressources éducatives libres. Ça a paru dans le bilan, il y a eu 40 propositions qui sont sorties des états généraux numériques, et l'une des propositions, c'était telle quelle, explicitement favoriser l'usage des logiciels et des ressources éducatives. Et dans le cas de la mise en action de ces propositions, on a créé un poste, enfin un demi-poste en fait, puisqu'il y a également la mixité, mais à la direction numérique pour l'éducation, chef de projet logiciel et ressources éducatives libres. Ça, c'était nouveau. Et donc, on m'a contacté pour vouloir savoir si ça m'intéressait. Moi, il se trouve que j'étais en fin de contrat, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai réfléchi et j'ai dit banco, quoi. Et chiche, j'ai envie de dire. Et c'était quelque part, c'était courageux de leur part parce que publiquement j'avais eu des propos, enfin comme j'avais eu des propos très très critiques, hein, parce que c'est vrai qu'on s'est impatienté à Framasoft, hein, voire jusqu'à claquer la porte. Et puis bon, ça l'était aussi pour moi parce que effectivement, on m'a dit on va te placardiser ou je ne sais, tu vas servir d'alibi, etc. Ce que j'ai entendu. Hein. Il n'empêche que j'y suis allé. Et ça fait un an que j'y suis. Je ne regrette pas. Peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi. J'ai trouvé que c'est.
Donc tu as été pour donner quelque part, on pourrait dire donner sa chance au produit en fait. C'est un peu. Non mais c'est un terme
non,
comme
mais
ça.
Si tu veux, dans ces états généraux du numérique, non seulement il y avait cette proposition fléchée libre, mais il y avait une volonté. Alors après, on peut penser que c'est des éléments de langage, etc. Mais on va être plus horizontal, plus voilà, plus de gouvernance partagée, voilà, des mots qui me parlaient à moi. Et donc,
d'accord.
Donc voilà. Et franchement, effectivement, ça, c'est avéré. Je trouve que, alors c'est un peu paradoxal, mais tu vois, pourquoi c'est paradoxal ? Parce que moi, je suis un mâle blanc de 50 ans, hétérosexuel, etc. Mais je trouve que bon, et il y en a d'autres, hein, mais voilà, j'apporte un peu de diversité. Mon profil apporte de la diversité. D'ailleurs, j'ai dit, moi, je vais arriver. Voilà, moi, j'ai plein de compétences, mais en autodidacte, dans le monde associatif, voilà, parce que, avec l'aventure Framasoft, etc. Je suis pas bardé de diplômes comme d'autres à l'administration centrale. Voilà, je vais arriver tel que je suis.
Alors, on comprend bien les motivations. Donc, tu y es arrivé donc, en septembre 2021. Là, nous sommes en septembre 2022. Donc, ça fait un an que tu y es. Effectivement, je confirme, tu n'es pas dans un placard, là, en tout cas, on ne t'a pas sorti. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est un peu, justement, ton retour. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant, par exemple? Est-ce que la situation, on va dire, du libre éducatif, notamment au ministère, correspondait à ce que tu t'attendais, ou c'était pire? Finalement, mieux que ce que tu croyais. En fait, tu es assez libre de répondre en fait, à la question. Non, là, c'est un peu,
franchement, j'ai été très agréablement surpris. D'abord, il y avait eu le projet APPS qui avait été lancé.
Alors, on en reparlera tout à l'heure pour préciser ce que c'est.
C'était quand même un signal tout à fait positif. J'ai été très, très agréablement surpris par la connaissance du sujet, en tout cas la direction numérique. Les gens qui comprenaient ce que c'était qu'un logiciel libre, les ressources éducatives libres, les Creative Commons, etc.
Alors, dans tes collègues et au niveau de la direction, par exemple, notamment au niveau d'Audrin Le Baron?
Absolument.
Est-ce que le positionnement personnel d'Audrin Le Baron joue un rôle important là-dedans?
Ça, je peux pas.
Là, tu peux pas. D'accord.
Prononcer. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai tweeté hier comme ça pour un petit clin d'œil, mais il a coécrit un article sur les licences libres en 2003. Il a écrit un article qui est sur les licences permissives, pas permissives, MIT, GPL, Berkeley, tout ce que tu veux. Donc voilà, donc on a quelqu'un qui s'y connaît bien sur le sujet. Non, mais plus globalement, voilà. Si tu veux, je savais qu'il se passait plein de choses, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'initiatives. Alors qu'ils ne seront pas forcément étiquetés libres, stricto sensu à 100% avec toutes les bonnes licences, etc., mais qui allaient dans la direction de la collaboration, du partage, de l'échange, sans être démago, hein, vraiment, je m'attendais pas. Donc voilà, ça c'était une agréable surprise.
Ah, avant d'entrer peut-être dans des exemples concrets, j'ai une question de périmètre, enfin de périmètre de nombre. La direction du numérique éducatif, c'est combien de personnes, à peu près? Tu as une idée?
Alors là, j'invite les auditeurs à...
D'accord. Non, mais c'est pour savoir, parce que toi, tu as un poste, effectivement, mais c'est pour savoir...
En fait, comme on a aussi de l'animation de réseau, j'avoue que je ne sais pas exactement jusqu'où... C'est une pirouette, là, pour en
D'accord.
sortir.
D'accord, ok, bon. on regardera, mais c'était pour avoir une idée un petit peu. Alors, sinon, d'un point de vue concret...
Mais c'est l'ordre de la centaine, plusieurs centaines de personnes.
D'accord, ok. D'un point de vue concret, en un an, finalement... quelles initiatives ou quelles choses se sont passées? Alors, tu le dis, plus ou moins libre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans les... comment tu pourrais expliquer, finalement, ce que tu as vu, ce que tu as participé et où on en est aujourd'hui, un an après? Après, on peut avoir des perspectives.
Je suis arrivé avec deux missions, une qui était plutôt de la stratégie et l'autre qui était plutôt de l'ordre de l'animation, si tu veux. Donc, la stratégie, c'était... définir une stratégie et une feuille de route spécifique au libre éducatif collectivement, c'est-à-dire monter un comité, un groupe de travail, etc. Et puis de l'autre, animation de l'écosystème.
D'accord.
Voilà. Et notamment en partant de ce que font et en étant à l'écoute et en repérant, en valorisant ce que font les enseignants. Je peux te donner un exemple parce que on vient de le sortir pour la rentrée, c'est la classe virtuelle. La classe virtuelle, qui est donc un outil de visioconférence mais adapté à un usage scolaire qui a été utilisé lors du confinement. Mais lorsque la crise est arrivée, l'outil qui était proposé, il était opéré par le CNED et c'était un logiciel propriétaire, ça s'appelait Blackboard et sur des serveurs Amazon. Ça signifie, alors le logiciel propriétaire Blackboard, ça signifie qu'on pouvait pas forcément l'adapter à nos besoins, on était obligé d'utiliser tel quel avec ses fonctionnalités. Et puis les serveurs Amazon posaient des problèmes évidents de protection des données personnelles. Aujourd'hui, c'est remplacé et alors évidemment on est sorti de la crise donc ça va être moins utilisé mais il peut y avoir toujours des on croise les doigts enfin on n'est pas totalement sorti hein. Mais enfin on est sorti du confinement en tout cas, mais aujourd'hui c'est remplacé par le logiciel libre Big Blue Button intégré à la suite Apps dont on aura peut-être l'occasion de parler.
On en parle maintenant justement
non seulement on utilise ce logiciel libre mais on finance du développement. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait tout un retour d'expérience, professeur, élève, UX, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voudrez qu'on améliore. On a listé et il s'en est dégagé quelques. Voilà, il faut faire ceci. Et voilà, et c'est en route et ça a été intégré à la version 2.5. Et quand on va sur le dépôt Git de Big Blue Button, il y a un remerciement en anglais pour le ministère de l'Éducation nationale.
Attends, on va préciser parce que là, les gens, sinon, vont être perdus. Dépôt Git, machin, etc. Donc, dépôt Git, en gros, c'est un espace où Internet, site web, sur lequel il y a les codes sources, en fait, de ce logiciel. Big Blue Button est développé, je ne sais plus si c'est par une entreprise ou une fondation. Et effectivement, le ministère de l'Éducation nationale a investi beaucoup de temps et d'argent dans le développement spécifique Big Blue Button. Et je pense qu'on aura peut-être, et j'espère, l'occasion d'en parler prochainement avec Nicolas Chonte, qu'on a invité à venir intervenir, mais qui doit demander l'autorisation à sa hiérarchie pour venir.
Non, mais c'est comme si on ne se contentait pas de lire Wikipédia, mais qu'on
Non, mais justement, c'est ce que j'allais expliquer. C'est qu'il y a un fort investissement.
Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important. Parce qu'en plus, là, tu as dit, je ne sais pas exactement qui il y a derrière. Parce que, dans chaque logiciel libre a sa propre gouvernance. Ça peut être une fondation, ça peut être une boîte privée, etc. Et ça, c'est nouveau aussi pour un ministère d'avoir de tels interlocuteurs, être en mode gouvernance partagée et de travailler en bonne intelligence. Parce que. Nous, on a fait remonter des besoins et donc on a développé des fonctionnalités qui répondent à nos besoins, mais ensuite c'est reversé au code. Et donc, ça bénéficie à tous les utilisatrices et les utilisateurs de Big Blue Button à travers le monde. Ça me semble une bonne idée. C'est hébergé en France. Ça, c'est mine de rien, c'est chez Scaleway, mais ça aurait pu être aussi sur nos serveurs. Bon, après,
Scaleway, c'est une entreprise française d'hébergement. Oui.
Voilà, et en plus, si tu veux, je parle de la classe virtuelle, c'est pour un usage professeur-élève, mais on l'utilise aussi entre agents. Ça s'appelle, un autre nom, ça s'appelle visio-agent, mais c'est 40 000 réunions et 200 000 participants par mois. Et ça, c'est entre agents du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est aussi ce qui sert de base à son webinaire de l'État, et là, qui est utilisé par tous les autres ministères. Donc, il y a une belle mutualisation. Ça me semble vraiment être cet projet-là me semble être vraiment un exemple type de bonne pratique, quoi.
Alors justement, l'annonce officielle a été faite le 5 septembre 2022 et là j'ai copie d'un courriel qui a été envoyé, enfin d'un message qui a été envoyé par justement Audran Le Baron et Édouard Geffray qui est le directeur général de l'enseignement scolaire pour annoncer effectivement cet outil de classe virtuelle donc basé sur le logiciel Big Blue Button sur lequel effectivement le ministère a fait des modifications très importantes. Et je vais juste lire un extrait. C'est pour répondre au mieux aux besoins des professeurs et des élèves. Une étude a été menée en 2021 auprès de plus de 1800 professeurs qui ont testé cette nouvelle solution. Les retours ont été très positifs. 92% recommandent l'usage de cet outil et 84% estiment qu'il est suffisamment intuitif pour être utilisé sans formation. Et on va en profiter pour donc parler un peu plus de apps.education.fr. Donc c'est un site web qui propose en fait qui, comme tu avais commencé à le dire tout à l'heure, pendant la période effectivement premier confinement, en fait, la plupart des profs et malheureusement aussi des élèves utilisaient des solutions qu'elles trouvaient sur Internet, c'est-à-dire Zoom, etc. Et donc, au ministère, il y a une équipe qui a commencé à proposer des alternatives libres. Donc, ça s'appelait Apps Education, avec de la visio, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une dizaine de services, c'est ça, qui existent sur apps.education.fr.
Oui, ou peut-être cet ordre-là, oui.
D'accord.
Oui, c'est de l'intégration.
Et c'est monté en puissance, en fait, aujourd'hui.
C'est une plateforme qui intègre différents services numériques, à majorité libre, mais pas que, mais pas tous. Il y a d'autres services.
Sur apps.education.fr, c'est pas que du logiciel
libre ? Non.
D'accord.
Mais majoritairement. C'est majoritairement. Et puis la plateforme qui intègre Et en plus, il y a aussi des systèmes, il y a un système de blog, de liens, etc. La plateforme elle-même est libre. Mais par exemple, c'est vrai, il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a contribué à BigBlueButton, donc on a contribué aussi à PeerTube. Et là, la boucle est un peu bouclée pour moi.
PeerTube, explique ce que c'est que PeerTube.
PeerTube, un système. Alors, on dit que c'est une alternative à YouTube parce que c'est une plateforme de partage de vidéos en ligne. Et ce qui est vrai, oui, bien sûr. Et ce qui c'est vraiment une problématique importante pour nous parce que déposer des vidéos à usage qui ont été faites dans un cadre scolaire sur YouTube, on imagine bien les problèmes que ça peut poser. Donc là, elles sont chez nous. Et là, on a, on collabore avec Framasoft. Et ça, c'est très intéressant. Et on voit bien aussi que, du coup, les relations ont évolué entre l'éducation nationale et Framasoft.
Parce que PeerTube est développé par quelqu'un de Framasoft, voilà, avec du financement, de dons, etc.
Exactement. Pareil avec un Nextcloud qui correspond à... Parce que l'idée, c'est aussi de... Donc, en fait, PeerTube, c'est une sorte d'alternative à YouTube. BigBlueButton, c'est une sorte d'alternative à Zoom, etc. Et on a Nextcloud aussi qui nous sert une sorte d'alternative à, je sais pas, Google Drive, Gdocs, etc.
Oui, qui offre beaucoup d'applications et dont on a parlé dans Libre à vous déjà. Et je renvoie donc sur libreavoue.org. Vous recherchez Nextcloud dans le moteur de recherche. On va faire une petite pause musicale. Alors, tu as aussi choisi cette pause musicale. Nous allons écouter Our Lives Change par Triad. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Our Lives Change par Triad, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte toujours sur le libre éducatif avec Alexis Kaufmann qui est chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Si vous souhaitez participer à notre conversation, vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46 ou vous pouvez venir sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Alors juste avant la pause musicale, on parlait d'un ministère qui n'est pas simplement utilisateur de logiciels libres, mais qui contribue aussi aux logiciels libres. On avait pris l'exemple du logiciel de visioconférence BiBlueButton et de là donc de l'offre de classe virtuelle qui vient d'être annoncée par le ministère. Mais je suppose aussi qu'il y a d'autres choses. Peut-être tu as parlé d'animation d'écosystème, peut-être de retour d'expérience de prof. Revenons à nouveau, de nouveau sur du concret, sur ce qui s'est passé cette année, cette première année de poste, Alexis.
Oui, surtout que c'est, comment dire, la classe virtuelle, c'est pas du tout moi qui ai participé. Moi, je fais.
Mais c'est un très bon exemple, en tout cas, de
voilà.
De
mais
ce
en tout cas,
passe.
C'est pour te montrer, ouais. Comment peut-être le ministère évolue. Évolue dans la bonne direction, en l'occurrence, selon moi. Pour ce qui est de l'animation de l'écosystème, là, je pense que, et en plus, justement, j'avais cette expérience de Framasoft, je pense à, modestement avoir peut-être apporté quelque chose, parce que l'idée, c'est que. Nous sommes 800 000, il y a 800 000 profs. Hein. Parmi ces 800 000 profs, et puis il y a bac plus, tous plus ou moins bac plus 5. Enfin,
bah, sauf ceux qu'on recrute actuellement.
Mais j'aurais pas, voilà.
Voilà, t'aurais pas dû me dire
faute,
ça, parce que là, si
faute.
Tu me lances là-dessus, actuellement, c'est pas tout
c'est
à fait ça,
faute,
hein, malheureusement.
C'est ma faute. Alors, toujours est-il que, il se passe, et ça, je l'avais constaté, moi, dès mon arrivée à l'Éducation nationale et en travaillant aussi avec Framasoft, c'est que, voilà, il se passe plein de choses, il y a des énergies, il y a des projets. Maintenant, par le passé, ils n'ont peut-être pas été assez repérés, accompagnés, soutenus, écoutés, valorisés. Voilà. Et puis peut-être regroupés dans quelque chose de cohérent avec des structures et des moyens qui vont aller avec moi. Donc, moi, j'ai fait une grande concertation, j'essaie d'avoir une cartographie la plus exhaustive possible de ce qui se passe en relation avec les académies, parce qu'il y a aussi plein de structures qui sont là, il y a des référents numériques, etc. Mais si tu veux, le fait de faire confiance aux enseignants et de les mettre dans les meilleures conditions pour que ils créent et partagent ensemble, ça me paraît vraiment important. Et la valorisation, ça peut être simplement les identifier, les inviter à des événements, des choses. Typiquement, voilà, les choses nouvelles, si tu veux, c'est que on a subventionné des associations qui ne l'étaient pas par le passé pour la première fois. Ça fait une reconnaissance formelle. C'est pas des sommes faramineuses, mais c'est, tu vois, c'est une amorce. Alors, je sais pas je peux le citer. Il y a VIMS, qui est une plateforme d'exercice mathématique libre qui existe depuis 25 ans. L'AUF, qui est une nouvelle association de professeurs de NSI, parce que les professeurs de NSI sont assez.
Numérique et sciences de l'informatique.
Ouais, sont assez figure de proue parce que en informatique, le partage est quand même assez naturel, en tout cas au moins au stade de l'éducation et de l'université. Abulé du FR, ça, parce que c'est pas la première fois qu'ils sont soutenus, mais c'était.
Rappelle ce que c'est, par contre.
Abulé du, c'est une association historique hein, de soutien et de la promotion du logiciel libre dans l'éducation. D'accord. En l'occurrence, ils proposent une alternative à Twitter qui s'appelle EduTweet, plutôt, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. De suggérer aux élèves de participer à Twitter, donc sur EduTweet, okay. On a une plateforme qui est hébergée, qui est sécurisée. Primtux, une distribution Linux adaptée à l'école primaire. C'est une dérivée de Ubuntu, mais on a l'OS libre et on a tous les logiciels libres qui va avec, mais on a plein de ressources aussi pédagogiques libres qui sont dessus. Par exemple, j'ai compris qu'il y a une suite
et éducative
qui peut être utilisée aussi bien à l'école. Moi, je suis papa d'un enfant de 6 ans et il a Primtux sur son ordinateur. Il est absolument ravi et la sélection d'activités sont tout à fait intéressantes, intelligentes. Il a découvert tout seul à jouer aux échecs. Enfin voilà, c'est tout à fait une suite et c'est une solution très intéressante qu'on essaye de déployer le plus possible dans les écoles primaires. C'est pas toujours toujours facile parce que l'agenda des collectivités n'est pas forcément le même que le nôtre, etc. Valorisation collective, aussi valorisation individuelle. Alors, on a ce qu'on appelle, on peut avoir des IMP, c'est-à-dire des indemnités de mission particulière, un volant-d'heure qu'on peut distribuer. Moi, j'ai vu par le passé des collègues un peu s'épuiser dans leur projet qui étaient. Voilà, donc c'est, là encore, c'est pas forcément des sommes énormes, mais c'est une première reconnaissance. Vous avez créé et partagé quelque chose d'intéressant. Vous êtes reconnu pour cela. Si je peux te donner je peux te donner un exemple, par exemple en Corse, au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio, il y a deux collègues, Apollonia Raffaelli et Christelle Thierry, des professeurs d'informatique en BTS SEO, Service Informatique aux Organisations, donc un BTS, qui propose une suite libre d'applications libres pour l'enseignement d'économie et gestion. C'est une intégration d'un ensemble de PrestaShop, suite CRM, enfin des logiciels de gestion, éco, relations clients. Je ne suis pas un grand spécialiste de tout ça, mais elles ont intégré, elles font ça avec, en plus elles font ça avec leurs étudiants et leurs étudiants, et c'est assez impressionnant et ça mérite d'être reconnu. J'ai aussi participé à l'organisation, moi j'étais venu en parler très très rapidement l'année dernière, de la journée du livre éducatif à Lyon, avec qu'on a co-organisé avec l'Académie de Lyon. Et voilà, c'était aussi l'occasion d'inviter tous ces porteurs de projets, enseignants, communautés d'enseignants, associations d'enseignants, à montrer ce qu'ils faisaient, à partager, à échanger. Ça, c'était aussi quelque chose peut-être qui manquait, en plus avec la joie de se retrouver en présentiel. Je peux te donner aussi un autre exemple avec trois logiciels qui sont très différents, mais dont l'approche est un peu la même, de Wikidia, Mindtest et Lichess. Alors, Wikidia, c'est, on va dire que c'est la Wikipédia pour le jeune public. En tout cas, ça repose sur le même moteur Wiki, mais donc c'est une encyclopédie qui est plus adaptée. Bon, il y a eu des projets d'édition de Wikipédia faits avec des élèves, mais aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, Wikipédia est très impressionnant. C'est 2 500 000 articles sur la Wikipédia francophone. Ils sont souvent très bien structurés. C'est quasiment des articles académiques. Donc, on a Wikidia qui n'a que 40 000 articles. Il y a plein de situations pédagogiques. On peut inviter professeurs élèves à éditer dessus. Mindtest, c'est l'équivalent de l'alternative, le clone un peu libre de Minecraft. Mais ce qu'il y a, c'est que ce ne sont pas... Minecraft a été racheté, je sais pas combien de milliards par Microsoft, donc c'est sur les serveurs américains. Et là, en plus, avec Mindtest, on peut avoir son propre serveur, on peut adapter à nos besoins, on peut le personnaliser. Et il y a des projets pédagogiques sur Mindtest, c'est-à-dire il y a un beau projet qui s'appelle Mindstory où des élèves des classes vont choisir un élément du patrimoine à côté de leur établissement scolaire, hein, je ne sais pas, une ruine gallo-romaine, une église, un beau bâtiment architectural, et vont l'étudier. La ville est ravie aussi de participer parce que ça valorise son patrimoine. Ils l'étudient et puis ils en font aussi leur article Wikidia en passant. Et puis, ils vont le modéliser en 3D dans un univers de type Minecraft, donc sur Mindtest. Et donc, évidemment, ça pose plein de compétences mathématico-architecturaux, etc. Et puis, évidemment, aussi histoire de l'art. Et puis ensuite, les différentes classes mettent tout ça en commun sur une même carte. Et donc, voilà, ils vont visiter virtuellement les monuments qui ont été créés. Ça, c'est un bel usage. Et Lichess, qu'est-ce que c'est? Lichess, c'est une plateforme d'échecs en ligne qui est complètement open, complètement ouverte, qui a été créée en France. D'ailleurs, c'est une belle réussite du numérique français, en fait. Et là aussi, on a des usages. Alors, si tu veux, pourquoi je te donne ces trois exemples? C'est que sur aussi bien Wikidia, Mindtest que Lichess, il y a des usages pédagogiques en classe, mais pas que. Et puis, quand les élèves se créent leur compte avec leur professeur pour un projet pour une année, Wikidia, Mindtest, ils peuvent le conserver et puis ils peuvent continuer à éditer sur Wikipédia. Ils peuvent continuer à jouer dans les univers Mindtest, ou ils peuvent continuer évidemment à jouer aux échecs et à jouer aux échecs en ligne si de temps en temps ils veulent jouer avec des partenaires qui sont distants. Et c'est intéressant de valoriser ces projets, et c'est intéressant aussi de voir comment on peut soutenir le développement des logiciels libres qui sont derrière, donc Mindtest, Litchess et Victor. En ce moment-là, on est en train de discuter avec Litchess justement pour voir un petit peu comment on peut trouver
les aider financièrement en termes de ressources humaines, d'accord.
Financièrement. Okay. Sur des dispositifs, par exemple, on a un beau dispositif qui s'appelle EduHub, et là aussi c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on a des dispositifs, des appels à projets qui sont assez classiques, où c'était souvent c'est réservé un peu au monde de l'entreprise, à l'EdTech comme on dit. On a d'autres dispositifs qui sont plus souples, qui accueillent les associations, donc notamment EduHub qui est un dispositif pour créer de la ressource, créer et partager de la ressource numérique éducative. Et là, parmi les derniers lauréats, il y a deux projets. Il y en a un qui est Polymni, qui vient de l'Université de Toulouse, qui n'est même pas une association, qui est une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt
Collectif.
Collectif, hein, c'est ça. Et qui, eux, proposent en ligne un outil pour créer des capsules vidéo à partir de... Des capsules, ce qu'on appelle les capsules vidéo, c'est des capsules pédagogiques, c'est-à-dire... On peut j'invite les auditeurs à le tester s'ils connaissent pas Polymni. C'est super pour créer des petites vidéos à partir d'un PDF. Vous avez un PDF qui va vous faire différentes diapos, et puis vous pouvez incruster vous incruster en vidéo un peu où vous voulez, parler avec un prompteur. Donc ça donne des comme aujourd'hui le média vidéo courte est très utilisé.
Tout à fait. Très courte même.
C'est vrai, de plus en plus courte. Et on me demande souvent, t'as pas une vidéo très courte pour faire ceci, pour cela. Voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir en créer et sans, comment dire, avec une certaine facilité et avec une belle ergonomie. Donc Polymni, soutenu par le dispositif EduHub, et aussi un autre projet que je trouve intéressant, qui est Je fabrique mon matériel pédagogique. Là, on est sur plutôt dans des Fab Labs où par exemple, les enseignants peuvent fabriquer en impression 3D. Là, je pense à, par exemple, le glisse-nombre. Qu'est-ce que c'est que le glisse-nombre? Le glisse-nombre, c'est pour enseigner la position des chiffres dans un nombre. Hein, on est à l'école primaire. Et le fichier numérique de ce glisse-nombre, il est ouvert, il est à disposition de tous. Chaque enseignant peut, s'il est à disposition... une impression 3D, mais c'est vrai que ça se démocratise dans les établissements scolaires. Puis on a aussi des projets Fab Lab à l'école. Voilà, il prend le fichier, il est ouvert, il est libre, il est à disposition, et on imprime son glisse-nombre pour l'utiliser avec ses élèves. C'est aussi le partage de fichiers numériques qui donne ensuite des objets 3D, quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant.
Alors, le temps file très vite, Alexis. On est bientôt à la fin de l'échange. Tu as récemment envoyé un message, on va dire même un tweet sur un réseau social, disant « Le directeur du numérique éducatif, Audran Le Baron, ne s'en cache pas. Il a bien l'intention de développer le logiciel libre et les communs numériques dans un secteur où l'esprit de collaboration et de partage des savoirs est moteur. » Alors, une petite question, peut-être préciser ce qu'est un commun numérique, en tout cas dans l'esprit d'Audran Le Baron. Et la deuxième question, c'est quoi la stratégie qui va être mise en place pour atteindre ces objectifs? Est-ce qu'il y a déjà des choses concrètes? Est-ce que c'est une stratégie qui va être annoncée dans quelques temps? Voilà, concrètement, qu'est-ce qui va arriver?
Ce qui va arriver, c'est qu'on va publier notre stratégie numérique éducatif 2022-2027. Je peux pas en parler parce que c'est pas encore finalisé. Mais c'est vrai que les communs numériques, sans le dévoiler, ils feront partie des axes forts. Et on regroupe et englobe d'ailleurs le libre éducatif.
Ouais.
Alors, dois-je redéfinir ce que c'est qu'un commun numérique?
C'est compliqué en une phrase. Hein.
Disons que c'est une ressource, on va dire que c'est une ressource produite et ou entretenue collectivement par une communauté et gouvernée par des règles, parce que c'est des mots qui sont importants, gouvernée par des règles qui lui assurent son caractère collectif et partagé. En fait, on a trois mots-clés, on a ressources, on a communauté et on a gouvernance. Et c'est intéressant parce qu'on se focalise plus sur la ressource, et c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la production de ressources. Là, c'est quelle gouvernance partagée. Et ça oblige en tout cas ça fait en sorte qu'on travaille en commun et qu'on prend soin de la ressource, et aussi c'est penser la ressource on ne réinvente pas la roue. C'est quand on est sur un projet, c'est qu'est-ce qui existe déjà, comment améliorer ce qui existe déjà, et comment s'assurer aussi que ça va être pérenne. Donc ça amène à penser format ouvert, interopérabilité, etc. Voilà. C'est... Après, si tu veux, Audran Lebaron, il a parlé comme un numérique. C'était sur un projet qui s'appelle Eléa, qui est un projet autour de Moodle.
Justement,
parler
de ça. Est-ce que tu peux parler de
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de l'expression qui a comment dire, qui a eu un certain écho. Il a dit je rêve de créer la Wikipédia des
ressources pédagogiques libres.
Voilà, à cette occasion, ce qui était symboliquement fort et aussi comment dire, qui était très intéressant pour dans l'image qu'a Wikipédia dans l'éducation. C'est-à-dire que là tout d'un coup Wikipédia est devenu un objectif à atteindre, donc alors que ça, par le passé, ça peut être quelque chose qui était beaucoup plus effet repoussoir.
Et donc Eléa, c'est quoi alors?
Eléa, en fait, c'est un projet basé sur Moodle. Donc Moodle, c'est un logiciel d'apprentissage en ligne, hein, pour le dire très très rapidement. Mais si tu veux, c'est Moodle est un logiciel libre. Sur ce logiciel libre, on va inviter professeurs, élèves à travailler, et les professeurs vont créer des parcours pour les élèves, et ces parcours vont pouvoir les partager entre eux. Et donc ils vont créer de la ressource éducative parce que ces parcours seront partagés sous licence libre. Et donc on invitera les enseignants à partager leur parcours, à les améliorer ensemble, etc. Donc on a un peu toute la chaîne. On repose sur un logiciel libre avec toutes les qualités qu'il a, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter, on peut contribuer au code, etc. C'est ouvert, c'est sur nos serveurs, etc. C'est aussi. Et puis on incite professeurs et élèves à travailler dessus, à partager, à enrichir des parcours, etc., etc. Voilà, donc c'est un bel exemple de commun numérique, parce que c'est envisagé aussi avec une bibliothèque où justement parce que là, ça en manque, si tu veux. On a beaucoup de ressources numériques qui ont été créées mais
on sait pas où elles sont
exactement.
Voilà. C'est-à-dire qu'il faut
le dire très rapidement, on a du mal
à les relocaliser entre guillemets.
Voilà.
C'est-à-dire pour voir les. D'accord. En tout cas, bon, c'est des. Alors, je précise que Eléa, ça s'écrit E-L-E-A, hein, parce que sur le salon web, il y a des remarques par rapport à la terminologie. Mais on mettra toutes les références sur la page consacrée à l'émission, hein, sur libreavoue.org et sur causecommune.fm. Donc, si on a bien compris, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura l'annonce d'une stratégie du ministère de l'Éducation nationale 2022-2027. Qui va donc annoncer donc pour l'instant tu peux rien annoncer. Oh, on ne veut pas te poser plus de questions, mais on a cru comprendre que peut-être que les communs numériques.
Je ne veux rien annoncer, mais si tu veux, l'exemple que j'ai cité sur la classe virtuelle, le soin nouveau qu'on apporte à cet écosystème, parce que si tu veux, c'est dans l'ADN des. Les professeurs, ils partagent. Hein,
oui, mais, c'est leur ADN. Oui.
Mais inciter au partage, par contre, et valoriser ce partage, on ne l'a peut-être pas assez fait par le passé. Donc
Et l'accompagnement au partage.
Voilà. Et aussi leur faire confiance et s'intéresser et les mettre dans les. Plutôt que leur apporter de la ressource qui vient d'en haut, si j'ai envie.
Tu veux dire que le ministère de l'Éducation nationale va s'intéresser aux profs? Non, je blague.
C'est perfide. Je ne répondrai pas à cette attaque perfide.
Je peux me permettre d'être un peu perfide. Donc, si j'ai bien compris, peut-être qu'Audran Lebaron. Bah, en tout cas, c'est une invitation publique que nous lançons à Audran Lebaron et puis à ses équipes, hein, de venir présenter cette stratégie, effectivement, qui ne couvre pas évidemment que le numérique. Hein, c'est une stratégie globale école, si j'ai bien compris. D'ici.
Si, ce sera notre stratégie du numérique.
Numérique, d'accord. Mais ça ne couvre pas que le logiciel libre. Il y a
d'autres questionnements. Bon,
voilà, évidemment, sans aucun doute.
Et le logiciel libre n'est pas l'alpha et l'oméga non plus.
Tout à fait. On arrive bientôt à la fin et à la toute dernière question. J'ai envie de te demander, bon, bah, toi, ça fait un an que tu es là. Donc, tu as un contrat de, je suppose, de 3 ans. Donc, tu t'inscris dans la continuité. Est-ce que déjà, tu as des projets Alors, je précise effectivement que il y a les évolutions positives qu'on peut noter dans les ministères. Il y a aussi côté direction du interministériel du numérique, la DINUM, avec notamment Bastien Guéry et l'équipe des Blue Hats, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent et qui développent des logiciels libres dans l'administration. C'est vrai que c'est en parallèle et c'est à peu près à la même période, donc on voit effectivement une dynamique.
Non, c'est très important, c'est-à-dire nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi un réseau, suite au rapport Botorel et à la circulaire Carcass, on a un réseau d'AMDAC, d'administrateurs ministériels des algorithmes, des données, des codes sources. Dans l'enseignement supérieur, on a le plan national pour la science ouverte. On a aussi Henri Verdier, ambassadeur numérique, qui a poussé les communs là récemment. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Certains disent parfois, oui, les planètes sont alignées. Alors, moi, je suis prudent, hein. Et puis, le slogan de Pharmasoft, c'est la route est longue, mais la voie est libre.
Tu veux dire que Jupiter est avec nous, c'est ça?
Mais je me dirais que la séquence est quand même très favorable.
Je finis avec la question perfide. Non, avant-dernière question, mais rapide, celle que je voulais te poser. Donc voilà, ça fait un an, il te reste encore du temps. Est-ce que dans l'année à venir, tu as déjà des idées de projets ou de choses sur lesquelles tu voudrais un peu plus appuyer, même si peut-être tu ne peux pas trop en parler parce que
non,
bah, c'est-à-dire
que je pense que les communs numériques vont faire partie d'un des axes forts de notre stratégie et que je serai partie prenante. Voilà.
D'accord.
On peut pas en dire plus exactement, mais ça c'est une chose. L'amorce là de soutien individuel, collectif, événementiel, etc., qui pour l'instant est très modeste en termes de moyens. J'espère, avec d'autres, l'amplifier. Parce que ça me semble vraiment important dans cette période où voilà, le contexte est quand même difficile pour l'éducation nationale aujourd'hui, on va le dire comme ça. Vraiment, faire confiance aux enseignants et les mettre dans les bonnes conditions pour travailler ensemble, ça me semble vraiment très, très important.
Alors, on nous signale sur le salon web que le logiciel libre est bien l'alpha et l'oméga, mais je vais te laisser.
Évidemment.
Évidemment. Alors, en plus, ça commence à troller sur les jets privés sur le salon web. Voilà, on va quand même... Bon, en tout cas, c'est effectivement des choses très intéressantes. Et évidemment, dans un an, tu seras de nouveau notre invité, ou même avant, tu es invité permanent ici quand tu as envie d'intervenir et de nous faire un point d'étape. On arrive en fin de sujet principal. La question finale classique que l'on pose, pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette intervention en moins de 2 minutes, Alexis ?
En moins de 2 minutes. Je trouve intéressant, moi j'estime, alors c'est peut-être un peu immodeste de dire comme ça, j'estime que je viens du... Parce que si on fait le partage public, commun, privé, moi j'estime que je venais un peu des communs avec Framasoft. C'est intéressant que le public accueille un peu des gens qui viennent des communs, voilà, et dans des structures institutionnelles. Alors tu as parlé de la DINUM aussi, ça me semble... Et puis des gens qui viennent des communs acceptent d'y aller aussi. Hein. Ça me semble quelque chose d'important. Et si de plus en plus nombreuses soient les institutions qui offrent ce genre de poste, ça me semble quelque chose d'intéressant. Donc, une première chose. La deuxième, l'État contributeur, c'est pas rien, parce que là, pour l'instant, nous, on est tout seul à contribuer à BigBlueButton. BigBlueButton est utilisé dans toute l'Europe. Moi, je suis allé en Espagne, je vois aussi en Allemagne. Donc, ils utilisent BigBlueButton dans leur système éducatif. Imaginent qu'ils se mettent aussi à contribuer. Imagine que tous les pays européens se mettent à contribuer. Là, on va se retrouver vraiment, là, on aura des moyens et là, on va avoir des logiciels du feu de Dieu. Et Nextcloud va rattraper Google Drive, etc. Donc, c'est vraiment important cette question de contribution et ça me semble de l'argent public bien dépensé, tu vois. Deuxième idée. Troisième idée, c'est pas démago, mais c'est voilà, nos profs sont formidables, ils ont le partage, la création et le partage dans leur ADN, mais voilà, offrons-leur les meilleurs dispositifs qui soient pour qu'ils puissent travailler, échanger et partager ensemble. Et la quatrième idée, on a dépassé les 2 minutes, c'est
Vas-y.
Un discours, bah c'est ça, c'est un discours un peu d'optimisme, quoi. Voilà, le contexte est délicat, mais pour ce qui est moi, je suis vraiment très très agréablement surpris par ces un an au ministère et j'ai l'impression que plein de choses peuvent se faire peuvent se faire non pas le libre pour le libre hein, mais pour le plus grand bénéfice des professeurs et surtout des élèves.
Ben écoute, merci. Je précise juste effectivement dans ce que je vois une réaction sur le salon web que dans l'intitulé de ton poste il est question de mixité, mais on a choisi de ne pas en parler pour en parler ultérieurement sur un sujet dédié et laisser le temps nécessaire à cette partie-là pour pas juste la traiter en 1 minute parce que ça mérite beaucoup plus. Et je renvoie évidemment à toutes les émissions qu'on a fait déjà sur ce sujet en général sur la diversité dans l'informatique et on va en reparler très prochainement. Écoute, merci Alexis. Donc c'était Alexis Kaufmann qui est professeur de mathématiques, fondateur de Framasoft et actuellement chef de projet logiciel et ressources éducatives libres et mixité dans les filières du numérique à la direction du numérique pour l'éducation. Belle journée Alexis.
Merci, à bientôt.
On va faire une pause musicale. Alors, on va écouter le dernier morceau proposé par de la pause musicale proposé par Alexis. On va écouter un morceau d'un artiste qui s'appelait Cyber SDF, qui était le nom d'artiste de Laurent Séguin, une figure du logiciel libre en France, malheureusement décédée en 2020 à l'âge de 44 ans. Donc, non pensée à Laurent et à ses proches. Nous allons écouter Flamengo par Cyber SDF. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
cause commune.
93.1.
D'écouter Flamengo par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Alors je profite pour signaler d'ailleurs que les musiques des jingles que vous entendez sont de Cyber SDF également. C'était la musique d'Oling. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec une nouvelle chronique, mais pas un nouveau chroniqueur. Bientôt, nous accueillons un nouveau chroniqueur. Soyez au rendez-vous bientôt, le 13 septembre, on vous l'annoncera. En effet, Vincent Calam change de chronique. Cette saison, il va proposer des chroniques sur le thème du libre et la sobriété énergétique. Le premier chapitre aujourd'hui est intitulé « Qu'est-ce que la sobriété énergétique ?» Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric. Oui, alors fin de l'abondance selon Emmanuel Macron, entreprises exhortées à prendre leur part par Elisabeth Borne, la question de l'énergie est devenue la question de la rentrée, je pense que je n'apprends rien à nos auditrices et auditeurs. Il a fallu l'ignoble agression de l'Ukraine par Poutine pour mettre au centre des préoccupations un concept défendu de longue date par celles et ceux préoccupés par le changement climatique, la sobriété énergétique. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais devant l'importance de l'enjeu qui va bien au-delà du problème conjoncturel de la coupure du robinet de gaz russe pour cet hiver, j'ai trouvé intéressant d'explorer tout au long de cette année les liens entre le libre et la sobriété énergétique. Alors par libre, j'entends bien sûr le logiciel libre, mais aussi tous les communs numériques qui viennent juste de nous être présentés. Comme nous verrons, les liens sont profonds et ne se limitent pas à la seule contribution technique du libre à la sobriété énergétique. Nous les aborderons au fil des chroniques de cette saison, qui seront autant de chapitres sur le sujet.
Ah, tu précises que tu n'es pas un spécialiste de cette question.
Tout à fait. Mon but n'est pas de délivrer une expertise, que je n'ai pas, et mes connaissances sont encore très lacunaires. Donc l'idée, en fait, c'est d'explorer ensemble cette problématique. Et en particulier, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à nous transmettre toute ressource de leurs connaissances sur le sujet. Nous sommes preneurs et ils viendront enrichir les références de la chronique.
Alors, ces personnes peuvent intervenir sur le salon web, donc causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, dans les commentaires des podcasts, ou encore via notre page contact, soit sur causecommune.fm, soit sur libreavous.org. Et pour ce premier chapitre d'introduction, tu veux revenir sur le concept même de sobriété énergétique.
Oui, c'est toujours nécessaire de s'entendre sur les termes. Bon, nous savons tous ce que veut dire les mots sobriété, énergie, ce ne sont pas des mots savants, donc je pense que nous avons tous une petite idée de ce que signifie sobriété énergétique. Cependant, comme pour tout concept, sa définition est variable selon l'endroit d'où l'on parle. Il n'est pas sûr que sobriété énergétique signifie la même chose pour un ministre, un chef d'entreprise, un scientifique, un militant ou un simple citoyen. Alors, pour ma part, je vais m'appuyer tout au long de cette année sur un ouvrage, Petit traité de la sobriété énergétique de Barbara Nicoloso aux éditions Charles-Paul Meyer, paru en 2021 et disponible d'ailleurs en téléchargement sur le site de l'éditeur. Dans cet ouvrage, Barbara Nicoloso indique, alors je cite, qu'on peut envisager la sobriété énergétique comme une démarche volontaire et organisée de réduction des consommations d'énergie et des ressources naturelles par des changements de mode de vie, de pratiques, de valeurs, de normes, de comportements et de modes d'organisation collective. Bon. Alors, lu comme ça à la radio, ça peut paraître un peu indigeste, et comme il est parfois plus facile de définir un concept par ce qu'il n'est pas ou par ce à quoi il s'oppose, je vais m'appuyer sur deux éclaircissements fournis par l'autrice Barbara Nicoloso dans son ouvrage. Alors, premièrement, si on parle maintenant sobriété, c'est qu'avant il y a eu ébriété, ne l'oublions pas. Le problème, c'est pas tant l'abondance de l'énergie que sa surconsommation depuis plusieurs décennies dans une course effrénée à la puissance. Nous savons tous que cela donne, avec une forte consommation d'alcool, on finit par se réveiller avec une sacrée colle de bois. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui avec l'énergie. Après des fêtes de fin d'année bien arrosées qui ont duré une cinquantaine d'années, nous devons nous attendre à vivre un janvier sec et froid. Cette notion d'ébriété est importante car nous ne pouvons pas appeler à la sobriété sans analyser et critiquer l'ébriété énergétique qui caractérise nos sociétés depuis des décennies, voire depuis la révolution industrielle. Deuxièmement, deuxième éclaircissement, il est nécessaire de distinguer la sobriété énergétique de la seule efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est l'amélioration technique des rendements. C'est bien sûr fort utile, mais l'efficacité énergétique seule ne conduit pas à la diminution de la consommation d'énergie. C'est même souvent le contraire parce que les spécialistes appellent un effet rebond. Par exemple, l'amélioration des moteurs va pousser les constructeurs à proposer des voitures plus grosses et plus confortables qui seront de ce fait encore plus utilisées. Autrement dit, une approche purement technique est vouée à l'échec. La sobriété énergétique est d'abord une question politique qui touche directement à notre modèle de société et à nos modes de vie. Voilà. Voilà pour cette introduction et je pense qu'à propos, si on vous parle d'un objet à première vue très technique qui est en fait éminemment politique, ça devrait vous rappeler quelque chose, non ? Mais c'est exactement le cas du logiciel libre, bien sûr. En tout cas, me semble-t-il, tel que nous le défendons ici. Donc voilà déjà un point commun entre logiciel libre et sobriété énergétique que je vous laisse méditer en attendant la suite.
Bah écoute, merci, merci Vincent, parce que donc, comme vous l'avez, les auditeurs et auditrices l'ont bien compris, c'est une chronique par chapitre.
Voilà.
Tu disais tout à l'heure que la définition, il n'est pas sûr que sobriété énergétique signifie la même chose pour un ministre, un chef d'entreprise, un scientifique, un militant ou un simple citoyen. J'ajouterais peut-être aussi pour un joueur du PSG, visiblement, avec leur histoire de char à voile. C'est dans l'actualité aujourd'hui, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas évidemment si vous avez des remarques sur cette chronique, parce que bon, on a hâte d'attendre la suite. Mais si vous avez des commentaires, vous allez sur causecommune.fm et sur libreavoue.org, vous trouverez les moyens de nous contacter. Et si vous avez des messages, nous les enverrons évidemment à Vincent, qui se fera un plaisir d'y réfléchir et
de les répercuter dans les prochains chapitres.
Voilà, exactement. Et prochainement, on va traiter, je crois que c'est Étienne qui en parlait ce matin, de traiter le sujet entre le logiciel libre et. Alors, c'est pas sobriété numérique. Vas-y.
Bon, c'est une réflexion, peut-être un sujet sur effectivement l'informatique et les considérations environnementales, l'écologie. Quoi. C'est vrai que c'est un sujet à définir, mais qui est d'actualité. Oui.
Voilà, qui fera sans doute l'objet aussi de plusieurs émissions. Bah donc, c'était la nouvelle chronique de Vincent Canam, le libre et la sobriété énergétique. Merci Vincent, et puis belle journée.
Merci à toi.
Alors, on va finir par quelques annonces. Dans les annonces, Isabella, ma collègue, en a parlé tout à l'heure avec Teben Gerloff, la fête des possibles du 9 au 25 septembre. Alors, il y a plein d'événements libristes, il y a plein d'événements pour un monde meilleur. Et plus spécifiquement, pour ce qui nous concerne, nous directement, donc Isabella l'a annoncé, un apéro a pris les découvertes des services en ligne libres de notre Chapril, là où vous pouvez découvrir des services comme la création de sondages, de la visioconférence, etc. Cet apéro et cette présentation des services aura lieu vendredi 23 septembre à partir de 19h au local de l'April dans le 14e arrondissement de Paris. De son côté, la radio fait une journée portes ouvertes au studio vendredi 16 septembre 2022, donc c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Pareil, vous retrouvez des informations sur libreavoue.org et sur causecommune.fm. Ce week-end, c'est le retour de la fête du Luma, mais qui déménage, qui n'est plus à la Courneuve, qui est maintenant au Plessis-Pâté dans le 91, et il y aura un espace numérique libre. Yann Le Polothèque était un militant communiste et aussi un militant libriste, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, donc c'est du 9 au 11 septembre 2022, il y aura un espace avec des associations logiciels libres. Et je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels ou la culture libre près de chez vous, et également des organisations qui sont disposés à vous aider dans votre acculturation au logiciel libre et à vous accompagner dans vos premiers pas. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, Isabella Vanni, Teben Gerloff, Alexis Kaufmann, Vincent Calam. Aux manettes de la régie aujourd'hui, l'As des As, Étienne Gonu. Alors, je ne sais pas si tu as trouvé la référence, mais tu nous le diras tout à l'heure. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles, d'autant plus que cette semaine, c'est la rentrée de la plupart des émissions de la radio. La prochaine émission Libre à vous aura lieu en direct mardi 13 septembre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la reproductibilité des environnements logiciels pour la recherche. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 13 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.